Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Et à toutes, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée qui s'appelle Lindsay Clavaro. Bonjour Lindsay.
Bonjour Dominique.
Alors, elle est responsable éducation et médiation, elle est docteur en écologie marine et elle travaille bien sûr de maintenant au Planète Océan qui est à Montpellier. Alors, vous connaissez tous sans doute Planète Océan qui se situe à Odysseum. C'est un énorme complexe qui associe à la fois un aquarium, des lieux de rencontres, de discussions, et en même temps, là où on achète aussi plein de doudous. Alors, Lindsay va nous en parler un tout petit peu d'abord. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter Planète Océan ?
Bien sûr, Planète Océan, c'est 9 escales de visite qui cherche tout à susciter curiosité et émerveillement chez le visiteur. Et surtout, Planète Océan se rapproche de lui, le sensibilise et s'engage avec lui à la préservation de la planète.
Alors, donc vous vous engagez sur la préservation de la planète, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, vous étiez à Brest avant d'arriver à Montpellier, si j'ai bien compris.
Tout à fait, vous savez déjà tout. J'ai effectué mon doctorat à Brest sur les conflits homme-nature et après, je me suis du coup redirigée dans le sud après avoir fait quelques années d'enseignement en faculté.
Alors, c'est un énorme passage de passer de Brest et de la Bretagne à la Méditerranée.
C'est vrai, mais j'avais fait quelques années auparavant en Méditerranée. J'ai fait ma formation ici, donc licence et master. Et j'avoue que je venais de loin puisque je suis belge. Je suis venue de Belgique et puis je suis tombée totalement amoureuse du bassin méditerranéen. Donc ça a été pour moi une très belle opportunité de pouvoir y revenir.
Mais il n'y a plus de marée.
C'est vrai, il n'y a plus de marée. C'est plus l'océan, c'est la mer. Mais les sujets sont tout aussi importants à aborder.
Bien, alors, quel est le rôle à Montpellier de Planète Océan ?
Alors, les rôles sont multiples, mais on va dire que le rôle qui, du coup, est le mien et celui de nos équipes, c'est surtout un rôle d'éducation. Donc, on va vraiment pouvoir choisir de multiples sujets qui peuvent, du coup, être liés aux espèces qu'on héberge ou encore à des
donc,
sujets d'actualité.
Quand vous dites les espèces qu'on héberge, vous parlez de l'aquarium.
Oui, tout à fait. Donc, sur nos 9 escales de visite, on va avoir 8 escales qui concernent des bassins.
Qu'est-ce que vous appelez des escales ?
Alors, c'est parce que du coup, Planète Océan, on est vraiment sur une exploration de la planète Terre. On va avoir différents écosystèmes, que ce soit des écosystèmes aquatiques marins ou d'eau douce. Et on va finir tout ça par une remise en contexte de notre planète Terre dans un contexte plus global, qui est son univers, pour vraiment faire comprendre la singularité de cette planète et l'importance de la préserver, puisque c'est le nom de cette émission, hein, on n'a qu'une Terre.
Mais bien sûr, vous insistez sur l'océan, qui représente combien % de la planète Terre, hein ?
71%.
Voilà, donc c'est énorme.
C'est vrai que la plus grande partie de notre exploration se base sur l'océan, parce qu'il y a tant à dire, et aussi parce que historiquement, notre site avait aussi cette grande partie. Mais on a quand même cette partie avec la forêt tropicale, on a aussi les rivières, et la partie planétarium qui est très importante aujourd'hui, puisqu'on a vraiment une histoire linéaire, et toutes les parties sont importantes pour avoir une compréhension plus globale de l'histoire de la Terre.
Et alors, quand on visite, faites-nous un peu rêver, quand on visite, on les voit, ces parties tropicales ou ce sont des photos seulement ?
Non, on la vit complètement, que ce soit dans le parcours de visite, donc là où du coup marchent les visiteurs, ou encore au sein des bassins ou au sein des espaces d'exposition. Non, on peut vraiment s'y croire. C'est vraiment ça qu'on a essayé de travailler.
Il y a des arbres de planter,
Il y a des arbres de planter, des vrais, des faux. Ça dépend des endroits, évidemment, puisqu'on ne peut pas tout se permettre. On peut avoir des arbres, on peut avoir des petits buissons, ça va être à différents niveaux. On va avoir des espèces de petite taille, des espèces de grande taille, et on choisit nos espèces aussi hébergées par rapport au sujet qu'on veut aborder.
Et il y a beaucoup de monde pour s'occuper de tout ça?
Alors ça dépend par rapport au site à quel on compare. Je dirais qu'on est une petite équipe, mais qu'on a vraiment du multi-compétences. Donc on est une équipe d'une trentaine de personnes pour un site qui accueille plus de 400 000 visiteurs par an.
C'est énorme.
Voilà, c'est quand même pas mal. Mais notre équipe, elle est vraiment soudée. On travaille un petit peu tous à un peu tout. Donc grâce justement à ce partage des connaissances, on le fait tous ensemble. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis sur la partie création des contenus, validation, amélioration, vérification. Je le fais absolument pas seule. Je compte aussi sur la partie Aquario qui me partage et des anecdotes et leur expertise naturaliste, et à toute la partie technique qui est assurée aussi au sein de notre site, que ça soit pour tout simplement installer des expositions temporaires, pour voir créer des supports de visite très variés, et qui vont passer aussi sur des aspects sensoriels pour pouvoir permettre aux plus petits de profiter de l'expérience aussi. On va compter aussi sur la partie exploitation, donc nos hôtes polyvalents qui vont vraiment accompagner le visiteur pour leur faire profiter de la meilleure expérience. Et ça passe aussi par ça. Si on veut qu'ils comprennent nos messages, il faut qu'ils puissent vivre une belle journée.
Alors, vous ne connaissez pas, bien sûr, tous les écosystèmes du monde parce que vous êtes encore très jeune et que vous avez le temps de connaître tout ça. Votre expérience est essentiellement mesurer l'impact de l'homme sur les écosystèmes. C'est savoir comment l'homme peut les abîmer ou comment peut les protéger.
C'est vrai que mon bagage aujourd'hui, ça a été plus sur le conflit homme-nature, donc les impacts de l'homme sur notre planète et les solutions. Et plus particulièrement dans le milieu marin, qui a été du coup la grande partie de mes stages de master et de mon doctorat, qui a concerné plus spécifiquement les activités halieutiques. Donc
alors,
la pêche.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques solutions pour protéger notre espace marin ?
Bien sûr, il y en a plusieurs déjà. Bon, après, si je me base sur mon expertise, et puis ça fait une belle résonance aujourd'hui avec Planète Océan, nos espèces, donc les espèces qu'on exploite pour pouvoir du coup se nourrir, c'est
important. Alors, c'est quoi, oui, comme espèce ?
Il n'y a aucun souci. On a de nombreuses espèces dans le bassin méditerranéen, la dorade. On a eu des espèces dont on parle souvent chez nous. Le mérou brun a été longtemps exploité. Aujourd'hui, on l'héberge, on en parle souvent. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce qui a failli disparaître et qu'on aime mettre en avant, puisqu'en fait, il est important de connaître le cycle de vie de ces espèces, c'est souvent peu maîtrisé. Et maintenant que le mérou brun est mieux connu, on le protège mieux et tout simplement maintenant, vu qu'on a mieux ciblé le fait que c'était une espèce hermaphrodite, donc qui allait changer de sexe au cours de sa vie, il fallait attendre au-delà
alors,
de...
Alors c'est courant chez les poissons, hein. on va rassurer tout de suite nos auditeurs. Effectivement, les poissons sont très souvent hermaphrodite. Qu'est-ce qui fait qu'ils changent de sexe ? C'est souvent la température de l'eau, leur âge, c'est quoi ?
Ça peut être un tas de choses. La température de l'eau, un événement, une taille, la disparition d'un membre, puisqu'il peut y avoir aussi, comme chez les poissons clowns, une femelle dans l'anémone et à sa disparition, le mâle alpha va prendre la place de la femelle. Donc, les choix
sont multiples.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire. Connaître tout ça, c'est extraordinaire. Et ça n'est pas des accidents.
Non. Ce ne sont pas des accidents.
Voilà. Alors, vous faites connaître toutes ces espèces qui sont des espèces méditerranéennes. Est-ce que vous avez l'impression que les gens connaissent de plus en plus l'écosystème marin ou au contraire qu'ils sont totalement ignares hein?
Alors non, je trouve que les visiteurs qu'on rencontre à Planète Océan Montpellier sont très curieux. Et heureusement, ça veut dire qu'on réussit notre métier. Et je les trouve très engagés. Ils nous posent des questions qui peuvent être très profondes, très spécifiques, et parfois d'autres, des questions plus globales, mais en même temps, on n'a pas tous la chance d'aller au niveau de la mer Méditerranée. Parfois, certains découvrent la mer Méditerranée au travers...
Même à Montpellier, ils découvrent la Méditerranée.
Et oui, pour certains enfants, comme aujourd'hui, on a une mission d'éducation très importante, on accueille aussi près de 24 000 scolaires, et certains enfants n'ont pas eu l'opportunité d'aller à la mer.
De Montpellier, ils n'ont pas fait les 15 km qui les séparait de la Méditerranée encore.
Tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement. Il y a des écoles qui sont un peu plus éloignées. Et du coup, notre première escale, les rives de Méditerranée, permet cette sensibilisation à ceux qui n'ont pas eu cette chance-là.
Alors, qu'est-ce que vous leur racontez ? sur la Méditerranée.
On leur raconte par exemple que la mer Méditerranée, c'est 5 écosystèmes différents. Donc les écosystèmes, c'est pas si éloigné. Hein. Parfois, au sein même d'une mer, on a plusieurs écosystèmes. Pour ceux qui les connaissent pas encore, c'est les milieux rocheux, les milieux sableux, les herbiers de Posidonie qui sont uniques à notre mer Méditerranée. On retrouve aussi le milieu coralligène, lui aussi unique. Et
alors, enfin, la pleine eau. Les coraux qui sont un peu différents de ceux qu'ils ont souvent vus à la télévision parce qu'on leur montre seulement ceux de la barrière de corail.
Oui, on montre
les
milieux coralliens.
Les coraux sont un peu différents.
Oui, puisque nous, c'est milieu coralligène, donc coraux qui sont coraux orange-rouge avec gorgone, alors que ben, c'est vrai que ceux qui font le buzz au niveau des médias, c'est plutôt les milieux coralliens. Donc lagon corallien, magnifique. Mais en Méditerranée, on n'a pas à rougir. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots, puisque milieu coralligène et les coraux sont rouges. Mais c'est magnifique. Alors on les retrouvera plus en profondeur, puisque être rouge et à la surface, ce n'est pas une très bonne idée.
Ah oui, pourquoi ?
Parce qu'on est très visible des prédateurs. Et du coup, bah, les espèces de couleur rouge vont se retrouver à une profondeur un peu plus importante, tout simplement, puisque à cette profondeur-là, elles ne vont pas apparaître rouges, mais noires.
Alors, c'est les espèces de poissons qui les mangent ou c'est l'homme ?
Ça peut être les deux.
Et alors les poissons, quels sont les poissons qui mangent ces espèces coralligènes ?
Alors on va avoir des tas d'espèces, puisque dans le milieu coralligène, on va retrouver par exemple le barbier, etc. Donc on peut avoir la rascasse rouge, qui elle s'y cache et est également un prédateur.
D'accord. Bon, alors donc, première approche de gens qui n'ont jamais vu la Méditerranée, vous leur apprenez d'abord quels sont tous les écosystèmes de cette grande mer qui est fermé et qui a des caractéristiques particulières.
Voilà, c'est ça peut être un premier angle voilà, qu'on peut aborder avec les visiteurs, c'est les 5 écosystèmes qu'on peut illustrer grâce à notre première escale de visite. On peut aussi y aller directement sur un autre angle, avec par exemple pendant les vacances, on va essayer de trouver des thématiques un peu globales et on va illustrer cette thématique au travers de plusieurs escales. Par exemple, si on se retrouve en rive de Méditerranée, on va pouvoir y aller sur les super pouvoirs de ces espèces ou encore les différents moyens de reproduction. On en a parlé, il y a plein d'espèces hermaphrodites. Ça permet de reparler d'une espèce hermaphrodite, du cycle compliqué et de ce que ça peut engager pour ces espèces.
Et qu'est-ce que vous appelez les super espèces ?
Alors, c'est les super pouvoirs. Pas les super espèces, mais les super pouvoirs, ça peut être tout simplement le fait qu'une murène, elle va, quand la proie est un peu trop importante en taille, pouvoir faire un petit nœud avec sa queue, faire coulisser ce nœud et propulser sa tête sur la proie afin de la broyer, ce qui lui permet de pouvoir après mieux l'ingérer.
Et alors comment vous expliquez ça ? Comment vous montrez ça ? Comment vous sensibilisez à cela ?
Alors tout simplement en leur montrant directement les espèces dans le bassin, en pouvant parfois apporter des petites vidéos parce que l'espèce ne le fait pas forcément en instant T, on peut avoir aussi tout simplement par des expositions. On ajoute des expositions temporaires à notre parcours de visite et ça peut directement être illustré là-dessus.
Et alors je suppose que les gens sont un peu informés, ils le sont quand ils arrivent ou ils le sont de manière régulière? Comment faites-vous votre information?
Ah, pour ce qui est de l'actualité à Planète Océan, elle est partagée effectivement à travers des newsletters, à travers notre site, à travers les réseaux, mais aussi à travers parfois la presse.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs s'ils veulent être informés sur ce qui se passe, sur ce que vous faites à Planète Océan ?
N'hésitez pas à regarder le site web ou à suivre l'un de nos réseaux, celui qui leur est le plus approprié, puisqu'on est sur de nombreux réseaux. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur TikTok. On essaie de faire des formats appropriés à chacun de ces réseaux-là. Donc s'ils veulent le savoir et qui...
En tant que Planète Océan.
En tant que Planète Océan.
D'accord. Et donc, vous leur donnez à ce moment-là des rendez-vous.
Des rendez-vous, que ce soit les rendez-vous culturels, au travers des conférences mensuelles qu'on mène en biodiversité et en astronomie. On va aussi leur parler parfois de certaines petites choses qui se passent chez nous, notamment on est inscrit dans une quinzaine de programmes européens, on va leur permettre d'avoir certaines informations, comme on est coordinateur d'un de ces programmes avec la chimère tachetée et faire...
Avec
la chimère tachetée, c'est la chimère avec laquelle on travaille beaucoup sur un programme de reproduction où on est coordinateur.
Donc c'est un poisson
Un poisson cartilagineux, c'est la cousine des requins et des raies.
D'accord, donc c'est un gros poisson?
Alors ça dépend ce que vous appelez gros, puisque c'est vrai que souvent on a l'illustration des poissons de taille importante, elle est déjà d'une belle taille.
D'accord. Et donc, pardon, je vous ai interrompu, donc vous leur apprenez tout ça?
On peut leur donner certaines nouvelles, effectivement, quand il y a des réussites techniques, quand on apprend des choses sur des cycles de vie, puisqu'on a pu travailler, notamment avec la chimie RHT, avec l'Université de Montpellier et certains chercheurs, sur la découverte plus approfondie de cette espèce et notamment de son cycle de vie.
Alors, est-ce que vous leur donnez quand même de bonnes nouvelles? Par exemple, on a quand même réussi aujourd'hui à sauver le mérou, vous en avez parlé, mais à sauver également le thon. Donc, à ce moment-là, vous leur donnez des conseils? Qu'est-ce que vous faites?
C'est vrai que notre prise de parole, elle ne va pas être vers la tendance triste, mais elle va vraiment essayer de partager. C'est vrai l'impact. Les choses factuelles, donc l'état actuel, mais surtout les solutions. Le but, c'est vraiment que les personnes puissent en apprendre plus, mais savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que même elles peuvent faire.
Mais vous leur cachez quand même pas les menaces.
Non, non, on fait part des menaces, mais ça ne sert à rien de faire part des menaces sans donner les solutions. Donc on essaie d'avoir un package complet, que les personnes puissent se rendre compte de ce qui se passe, mais ce qui se passe au complet, c'est-à-dire les solutions qui sont mises en place aussi.
Alors, est-ce que vous leur avez parlé, par exemple, de tout ce qui se passe aujourd'hui en innovation sur les nouveaux récifs, hein?
Sur, par exemple, les restaurations des barrières?
Par exemple.
Oui, tout à fait. Et on en parlera encore prochainement, puisqu'on travaille, on a mis en avant le projet YAF Kérou, donc, qui est mené par Planète Mer. On a pu, du coup, accueillir Michael Racine, notamment, qui effectue sa thèse sur ce sujet. Et on a pu illustrer tout simplement la restauration des barrières de corail au travers même d'un bassin qu'on peut retrouver dans la 8e escale Planète Bleue. Et donc on continue à travailler avec eux puisqu'on va pouvoir les accueillir pour quelques animations au travers justement de leur projet qui est d'arriver entre 3 et 5 hectares de barrières restaurées.
Donc vous travaillez beaucoup avec les universités, avec la recherche?
Tout à fait.
Vous les invitez? Comment vous faites? Moi, j'ai assisté, par exemple, à une démonstration lors d'une conférence de Denis Lacroix sur la montée des eaux. Est-ce que vous avez souvent, comme ça, des conférences de chercheurs?
Tout à fait. On peut en avoir, c'est à minima, une par mois. Ça dépend un petit peu. Il y a des mois plus chargés que d'autres. Donc, c'est une par mois, et en biodiversité et en astronomie. Et donc, ces chercheurs...
Ah, les deux, biodiversité et astronomie.
Oui, donc ça en fait deux en soi. Deux conférences à minimum par mois qui sont réalisées. Et donc oui, effectivement, notre accueil de chercheurs est régulier. Ce n'est pas que les chercheurs, on va aussi accueillir les associations, des experts, etc. Parfois aussi, tout simplement, les travailleurs d'entreprises privées, mais qui sont très importantes dans les sujets. Les sujets sont variés et comment est-ce qu'on choisit les sujets scientifiques menés? Ça peut dépendre. Une sortie de livre, une sortie d'article scientifique, un parallèle avec une journée internationale, comme la journée internationale du poisson-ci.
Par exemple, mais vous suivez aussi tout ce qui est actualité sur l'océan aujourd'hui.
Tout à fait.
Alors vous avez donc été sensible bien sûr à toute la mobilisation qui a été menée par l'UNOC sur Nice. Hein. Est-ce que Planète Océan était partie prenante?
Alors partie prenante, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, l'année dernière a été effectivement riche en actualité, puisque c'était l'année de la mer. On a été labellisé d'ailleurs dans nos actions, hein, l'année de la mer en commun, et c'est vrai qu'on a suivi ça de près et on a essayé d'apporter les informations complémentaires à nos visiteurs qui se questionnaient autour, au travers de plusieurs animations.
Et vous avez eu plus de visiteurs que d'habitude?
L'année dernière?
Oui.
Pas spécifiquement, on est resté sur une audience, une belle audience, mais pas forcément plus importante que les années précédentes.
Donc on ne peut pas dire qu'ils se sensibilisent de plus en plus.
L'audience a quand même cessé de grimper ces dernières années, mais par rapport à 2024 ou 2023, on était quand même sur une très belle audience déjà. Et puis notre site n'est pas non plus extensible. Nous avons quand même une très belle capacité d'accueil et dans nos animations, on a pu voir quand même un très bel engagement de nos visiteurs.
Alors, vous faites des expositions aussi?
On fait des expositions. En ce moment, c'est sur les requins, les raies et les chimères.
Et alors, ce sont des photos de grands photographes internationaux ou d'ici ou comment?
Alors, en ce moment, c'est pas une expo photo. Ça va être une exposition qui a été permise grâce aux illustrations d'un illustrateur avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Et on a essayé, du coup, c'est vraiment illustré, ce n'est pas des photographies. Et on essaye d'aller sur, tout simplement, des anecdotes que les gens connaissent moins sur ces espèces de poissons cartilagineux.
Donc ils sont demandeurs de ces anecdotes, je suppose.
Oui, beaucoup. Dès qu'ils peuvent nous croiser avec l'équipe d'animateurs, c'est vrai qu'on a des échanges très très réguliers avec les familles.
Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la sensibilisation justement à l'océan est en train de grandir ?
Entre les scolaires et les visiteurs, j'aurais tendance à dire oui. Ils s'engagent tous un petit peu à leur manière. Ils posent des questions, ils sont curieux, c'est déjà une sorte d'engagement. Et le fait qu'ils s'y intéressent, on voit aussi la pertinence de leurs questions, je trouve que c'est quand même une forme d'engagement.
Donc, mieux savoir.
Oui, mieux savoir.
Mieux connaître.
Oui, mieux connaître, c'est déjà mieux protéger.
Bon, mais est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous aidez à conduire certaines actions ?
Oui, notamment, on a des programmes européens de reproduction. Donc là-dedans, on travaille sur les aspects techniques et découverte des cycles de vie. Et puis, avec notre métier d'éducation, c'est directement de participer à mieux savoir, mieux informer et susciter les gens à s'engager eux-mêmes.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent à Planète Océan, par exemple, pour travailler sur les plastiques ?
Sur la pollution plastique ? En ce moment même, non. Par le passé, probablement, on a eu aussi tout simplement des chercheurs qui sont venus mener leurs études au sein de nos bassins. C'est vrai que c'est une opportunité incroyable d'avoir tout simplement un écosystème un petit peu sous verre, sous lequel on peut mener certaines expériences avec des êtres vivants et voir tout simplement comment ça peut se passer.
Mais là, sur les plastiques, je suppose que vous n'en mettez pas dans vos aquariums.
Non, c'est ça. Sur les pollutions plastiques, on ne va pas travailler dans nos bassins. Après, ils peuvent faire des prélèvements pour faire des comparaisons.
D'accord. Et les gens qui viennent vous voir à Planète Océan, est-ce qu'ensuite, ils peuvent, sur le terrain, directement en Méditerranée, est-ce que vous les aiguillez ? Est-ce que vous leur donnez des indications pour pouvoir être davantage proches du réel ?
Tout à fait. Au travers de nos ateliers comme de nos animations avec le grand public, on va déjà leur apprendre certaines choses sur les espèces méditerranéennes, mais aussi sur le comportement à avoir envers elles. On le fait particulièrement quand les gens vont aller à nouveau à la plage. C'est l'occasion de leur parler des espèces qui vont croiser régulièrement, étoiles de mer, oursins, concombres de mer. Déjà leur apprendre certaines petites choses, le fait qu'ils font tous partie d'un même grand groupe qu'on appelle les échinodermes, les peaux épineuses. Souvent ça les surprend. Leur faire part de ce qui les rassemble, mais ce qui les différencie aussi. Et puis surtout, tout simplement, leur faire part du bien-être animal, de comment se comporter avec ces espèces, comment elles vivent, où elles vivent, et qu'ils peuvent toujours bien sûr les observer, parce que les observer, c'est mieux les comprendre, mieux les apprendre, mais que tout simplement, c'est des espèces qui doivent rester dans leur milieu, et ça aussi, c'est contribuer tout simplement à ce que ces espèces soient dans les meilleures conditions possibles.
Donc ça fait partie des premières indications, ne surtout pas les sortir de leur milieu.
C'est ça, ne pas les toucher, ne pas du coup les embêter, parce que si elles sont à ces endroits-là, c'est qu'il y a des raisons, ne pas les sortir de leur milieu, ne pas apporter des choses dans leur milieu non plus. Ça fait partie des premiers messages.
Alors les petits adhèrent à ça ?
Les petits adhèrent à ça parce qu'on leur permet de découvrir mieux cette espèce. Parce que tout simplement, derrière Étoile de mer, on leur montre qu'est-ce qu'elle mange, comment elle le fait, que finalement, elle aussi, elle a des yeux, entre guillemets. Donc leur montrer tout ça, c'est leur faire vraiment mieux connaître cette espèce et du coup, mieux avoir envie d'y faire attention.
Est-ce que vous avez l'impression que Planète Océan sert finalement aux Montpelliérains à prendre conscience qu'ils sont près d'une mer qui a une grande importance?
Je l'espère. J'espère que ça suscite à augmenter tout simplement la sensibilisation de notre public et que ça leur montre à quel point notre mer Méditerranée est exceptionnelle.
Mais ça, c'est votre désir, enfin, c'est votre espoir. Mais est-ce que vous voyez changer les choses?
Suite à nos animations, souvent, on a des retours où les gens sont surpris, mais agréablement, et ils nous font le retour en disant « Ah, j'aurais jamais cru ça, et maintenant, ça les transforme un petit peu. » On voit vraiment que parfois, quelque chose naît dans leur regard. On leur montre des choses « simples », entre guillemets, mais qui sont juste liées à notre métier. On a cette chance, nous, de pouvoir le partager tous les jours. Et puis, j'ai l'impression qu'ils repartent avec quelque chose.
Et vous savez les garder, s'ils ont envie de poursuivre le travail ?
Poursuivre le travail, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, vous leur avez fait, comme vous dites, vous avez vu dans leur regard un intérêt. Est-ce que ceux-là, vous savez les garder et les faire changer d'étape, peut-être ?
Alors si on voit que les gens sont plus en plus intéressés par ce qu'on dit, parfois on va aller plus loin dans nos animations, on va aller plus loin dans l'échange, et c'est vrai qu'on essaiera d'apporter ce que la personne souhaite. Pour les personnes qui, elles, sont un peu pressées ou ce n'est pas le moment, on les laissera bien évidemment continuer leur exploration et elles seront certainement surprises par une autre anecdote.
Alors, on a vu sur Planète Océan, il y a des moments comme par exemple le Monde Nouveau, où on a des grands spécialistes qui viennent, voilà. Est-ce qu'un lien s'effectue entre le grand public et ces gens-là ?
Oui, tout à fait. Les gens qu'on accueille souvent sont très très accessibles, donc les visiteurs se permettent, tout comme les animateurs, les mêmes questions, et puis tout simplement ils vont être à l'écoute de cette animation, parfois revenir vers nous aussi, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un petit briefing aussi sur toute l'animation qui va être menée pour pouvoir accompagner aussi les experts qu'on accueille chez nous.
Alors, moi j'aimerais que maintenant vous parliez peut-être un peu de ce qui vous paraît à vous important et qui n'est pas encore développé, où on rencontre encore un peu de déni, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait demain faire pour que les Montpelliérains soient plus sensibles à leur mer, hein, à la mer proche hein.
À la mer proche. Alors, je n'ai pas d'idée concrète là tout de suite. Ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est déjà leur transmettre au travers de différents supports, que ce soit le support périn ou les animations, il y a toujours un petit peu le saviez-vous des solutions et des impacts. Donc ça, si nos visiteurs pouvaient chaque fois en retirer au moins une information, ça serait crucial pour nous, parce que je pense que si tous nos visiteurs avaient cette sensibilité-là, on pourrait aller beaucoup plus loin sur nos actions ensemble.
Et vous, quel est votre grand souci pour la Méditerranée ?
Mon grand souci sur la mer Méditerranée, je ne suis pas assez experte, je pense. J'aimerais tant savoir encore les secrets de la mer Méditerranée, et j'en apprends encore tous les jours grâce à l'expertise de l'équipe aquariologie, par exemple. Mais j'aimerais tout simplement avoir le temps de découvrir tout ça et que du coup, on puisse endiguer encore ces petits déclins de population, tout simplement.
Mais vous savez que cette mer est quand même gravement menacée.
Oui, bien sûr. Elle a ses menaces, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'actions qui sont menées. Dans la mer Méditerranée, il y a quand même de nombreux programmes qui ont montré leurs effets.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Lindsay. Et donc, j'espère que, en tout cas, nos auditeurs auront envie de venir vous voir in situ, devant votre aquarium, pour leur expliquer un petit peu tout cela. Merci et bon week-end à tous. Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.